Allez, on est ensemble, évidemment. L'aventure continue dans le studio d'Europe 1 Sport avec Théo Doué de Canal+, avec Jimmy Algerino qui prend des notes, avec Grégory Schneider qui remet son casque. On est bien, mais tiens, on va prolonger le débat, justement, se poser la question. Vendredi 26 mai, il y a 30 ans, l'OM remporte la Ligue des Champions grâce à une tête de Basile Boli à Munich. Un exploit unique pour le foot français. Alors, que reste-t-il de Marseille? Eh bien, on en parle maintenant. Et c'est parti avec vous, bien sûr. On se pose la question, on vient d'entendre évidemment cet entretien de Jonathan Clauss, 30 ans après, Jimmy Algerino, vous étiez un bébé à l'époque. Que reste-t-il de cette folle épopée, selon vous?
Moi, je vais parler du positif, c'est de ramener cette première Coupe d'Europe en France.
À jamais les premiers.
À jamais les premiers, voilà, effectivement. Sachant aussi qu'il ne faut pas oublier que les deux années suivantes, c'est vrai que l'OM a connu des déboires, assez...
Il y a eu l'affaire OMVA.
Voilà,
quoi, ouais.
C'était pas... Donc non, moi je garde ça. C'est vrai que j'avais pas regardé le match, j'étais pas devant la télé. Mais bon, en tout cas, voilà, le fait que ça soit un club français qui gagne la Coupe d'Europe, bah, c'était pour un joueur de foot, c'était top parce que ça donnait envie de ressembler à tous ces joueurs-là et d'atteindre un jour peut-être de jouer une finale de Coupe d'Europe.
Mais que reste-t-il de cette belle épopée quand on voit qu'aujourd'hui Marseille ne joue plus la Ligue des Champions
les supporters.
C'est terrible, c'est martyrisant même pour les supporters du côté de Marseille, non? Enfin, on peut l'imaginer. Donc, il reste les souvenirs, mais est-ce que ça suffit pour entretenir la flamme?
Les supporters, en tout cas, le font très bien, je trouve. Que ça soit déjà sur le souvenir, pour parler de cette période-là, et aussi de la façon dont ils soutiennent leur équipe. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Mmh. Et sur ça, moi, je trouve ça incroyable. Après, c'est vrai que sur le titre et sur ce qu'a légué cette équipe-là, je dirais plus grand-chose, parce que Marseille, aujourd'hui, ne rayonne plus en Coupe d'Europe, sur la Ligue des Champions. Donc c'est vrai qu'on peut se demander ce que les joueurs et les dirigeants qui sont passés ont retenu et ont réussi à faire avec ce glorieux passé. Quoi.
On est à deux jours de la date anniversaire, alors, il y a plein de célébrations de prévues, Théo Doué, Canal+. Que reste-t-il selon vous de cet incroyable sacre?
Je dirais une immense fierté. Alors moi, j'y étais pas au M93, mais j'ai échangé avec pas mal de Marseillais, de supporters marseillais dans l'après-midi, et c'est le mot qu'ils ont encore tous à la bouche 30 ans après. C'est un événement marquant qui va bien au-delà du football, qui pour les supporters, pour leur propre identité, pour la propre identité de Marseille, a été une forme d'événement fondateur, finalement, pour la ville de l'Olympique de Marseille, dans le contexte d'il y a 30 ans. C'était une ville où il y avait énormément de chômage, de pauvreté, et elle a rendu les Marseillais extrêmement fiers. Et c'est toujours de cette finale dont les supporters marseillais font référence, finalement, lorsqu'ils doivent aller chambrer les supporters du Paris Saint-Germain. Peut-être qu'on en parlerait moins, peut-être qu'ils seraient un peu moins fiers de cela, si entre-temps il y avait eu d'autres clubs français qui avaient remporté cette Ligue des Champions. Mais le fait que 30 ans après, personne n'ait réussi,
un peu comme Yannick Noah,
exactement, à gagner cette Ligue des Champions, eh bien finalement, cette Ligue des Champions 93, elle garde presque toujours la même saveur.
Grégory Schneider, sur cette ferveur qui... Est-ce qu'elle est toujours là, la ferveur
Est-ce qu'on va parler du positif? Ouais. Parce que bon, c'est évidemment, bon, c'est quand même un titre ambivalent. Hein. Il y a eu des larmes, même à Munich, le soir de... Non, moi, il y a quelque chose qui m'a marqué. Alors, outre ce que vient de dire mon confrère, c'est-à-dire ça a été presque le barycentre sportif et presque culturel de français à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on avait des écrivains qui descendaient au Vélodrome. Je me souviens d'Éric Orsenna. On avait une élite politique et économique qui se rendait au Vélodrome. Et c'est-à-dire que le foot, et c'était la première fois, était un peu au centre de l'équation générale. Et il y a un deuxième truc qui me marque. C'est la première fois, en tout cas moi, que j'ai vu une équipe française qui mettait la barre aussi haut au niveau des objectifs. C'est-à-dire que Saint-Étienne, c'était pas normal. Bastia, c'était pas normal. 82 ou 86, c'était des moments sympas que t'arrachais à une génération.
Ouais. Là, une espèce d'anomalie.
Là, tout d'un coup, t'avais quand même ça, faut reconnaître ça à Bernard Tapie. Il y avait cette ambition-là. Il y avait les moyens avec. Il y avait sans doute l'absence de scrupules qui allait aussi avec. Mais c'est-à-dire qu'il y avait une espèce de côté qui consistait à...
C'était une autre façon, quoi.
C'est-à-dire qu'on n'était plus challenger, en fait. Ouais. C'est-à-dire que lui arrivait en disant, bon, ben voilà, on t'a on prend des Roumains, on doit les rincer, on prend le Milan AC, on les regarde dans les yeux. Il y avait cette espèce d'autorité-là et d'ambition-là. Et tu peux que penser que ça a un peu décomplexé le sport français en général et le foot en particulier.
Ah, ça a été un détonateur selon vous.
Ouais, ouais. Parce que c'est-à-dire que tu te donnes, quand tu te donnes des objectifs, quand tu formalises, tous les sportifs connaissent ça, une ambition, il faut la formaliser à un moment donné. Il faut l'exprimer, il faut la dire, Et il me semble que c'est la première fois que j'ai entendu ça à ce degré, en tout cas dans le football.
Ouais, il y avait avant et après finalement. Il y a eu un avant et un après dans le foot. Ça a été un déclencheur, vraiment, selon vous aussi.
Oui, parce que ça il n'y avait pas de Coupe du Monde, il n'y avait pas de Championnat d'Europe. Et c'est vrai que pour tous les joueurs, enfin les jeunes
c'était
joueurs...
C'était le Graal ultime, quoi.
Oui, bien, mais ça donnait un objectif à atteindre, à essayer
et
de
c'était genre,
de
c'est
de
possible pour nous
ouais,
aussi, quoi.
On n'est pas moins... On a grandi, enfin, j'ai à peu près le même âge que Jimmy, mais nous, on grandissait en disant, ah, mais les Allemands, mais les Italiens, mais et tout d'un coup, non. C'était plus... tu ramassais les billets, t'es chez toi. Il y avait un peu ce côté...
Il n'y avait plus juste le fait d'être joueur professionnel ou de jouer dans tel club. C'était... d'arriver à être de nouveau à gagner la Ligue des Champions. Et ça, c'est vrai que c'était un objectif supplémentaire pour les joueurs de football. Aussi,
et ça a été fait avec une équipe qui était charismatique, extrêmement charismatique, avec des figures. Et de ce qu'il reste de cette époque-là, il reste ces joueurs-là. Tout le monde les connaît, les Basile Boli, les Didier Deschamps. C'est vrai que ce sont des joueurs qui auront marqué l'histoire du club et qui finalement continuent aussi de faire l'histoire du club. Jean-Pierre Papin, il est toujours au club comme ambassadeur aujourd'hui. Et c'est un peu le fil de l'histoire, cette histoire-là que l'on continue de tirer.
Et avec, Grégory Schneider, je trouve, Libération. Pour qu'on repense à cette équipe et au match, une forme de dureté, de réalisme, c'était comme une équipe, il n'y avait pas de... Comment dire, il n'y avait pas l'excuse ou l'alibi romanesque quand même. Ouais. C'est-à-dire que tu marchais sur l'équipe adverse, tu mettais des coups, c'était une équipe puissante, c'était une équipe, je me souviens, les trois arrières centraux, ils avaient quand même commencé avec Moser, c'était effarant. Mais ouais. Bon, tu prenais Boli ou Casoni, ouais. C'était la même mamaille. C'était vraiment des... Je trouvais que c'était une équipe dure, avec Dimeco. Enfin, Jimmy...
Un peu comme...
Il y avait un peu tout.
Ouais.
Il y avait le management, il y avait le président, bien sûr. Mais il y avait aussi la tactique, il y avait le physique, il y avait la technique, et puis il y avait des joueurs incroyables qui pouvaient à tout moment faire gagner cette équipe, quel que soit l'adversaire que rencontrait l'OM.
Qui pour la plupart sont encore en vie, hein. Bon, à part Bernard Tapie qui nous a quittés récemment. Ils sont encore là pour témoigner et pour entretenir la flamme, c'est important aussi.
J'avais une anecdote, c'était Gastien qui avait joué à Marseille une année, il avait été blessé. Et Tapie d'ailleurs avait promis qu'il était à New York de le prendre, il s'est blessé, il s'est fait les croisés, Tapie l'a pris quand même. Donc il faut reconnaître ça. Et il me racontait ce qui le fascinait dans cet OM-là, c'était qu'ils étaient à couteau tiré pratiquement tous, tout le temps. C'est-à-dire qu'ils se voyaient jamais en dehors, les Allemands supportaient pas les Français, les Français entre eux, il y avait des bisous. Mais il me dit, le matin du match, c'était comme ça.
L'union sacrée.
Oui, c'est-à-dire qu'et ils allaient au bout du bout ensemble. Et au coup de sifflet final, il n'y en avait plus un qui passe. Ils avaient c'est quand même cette capacité. Et Gastien dit, si je devais définir le très haut niveau, c'est ça. C'est-à-dire que sur un espace donné, il n'y a plus rien qui existe. Tu fais le truc. Après, c'est bonjour, bonsoir. Il dit que c'était des grands garçons, quoi. Il n'y avait pas besoin d'organiser des trucs ou des machins.
De la cosmétique non, pour montrer qu'on était une équipe, qu'on était unis et tout.
Ouais, c'était balèze. C'était des types qui avaient ça en eux. Gastien disait que c'était des mecs différents. J'ai croisé des footballeurs toute ma vie. Là, t'étais à un niveau de dureté, d'exigence. Ouais. C'était d'autres joueurs, en fait.
Théo Douet.
Non, je suis complètement, parce que moi, je n'ai pas vécu la grande époque des années 90. Donc
et justement, vous qui le voyez aujourd'hui avec un peu plus de recul, et vous n'avez pas tout l'historique, vous avez la sensation que c'est encore un souvenir qui est très présent l'univers, dans la galaxie foot et au-delà.
Ouais, c'est un petit peu ce que je disais au début. Il y a la certitude que c'est extrêmement présent et que c'est encore un marqueur absolument de cette histoire marseillaise. En quoi c'est important encore aujourd'hui ? Je pense que ça garde une importance aussi pour les joueurs qui vont venir signer à l'Olympique de Marseille. Forcément, quand vous signez dans un club qui a gagné la Ligue des Champions, ça a une autre saveur, alors que avant ce moment-là, c'était pas la même chose. Est-ce qu'un Alexis Sanchez aurait signé à l'Olympique de Marseille sans que le club ait eu cette histoire-là auparavant. On ne le sait pas véritablement, mais il est indéniable que ça joue et c'est que les dirigeants, depuis des années, en jouent aussi pour pouvoir attirer les joueurs, pour pouvoir les convaincre de signer à l'Olympique de Marseille. Mmh. Juste un mot, il y a un super documentaire qui est sorti cette semaine sur Canal, signé Marine Clerc, ça s'appelle Marseille Capitale, et en fait, ça retrace cette journée folle de mai 93.
C'est par qui, pardon ?
Marine Clerc, consoeur de Canal+, qui retrace la folle journée vécue par les supporters marseillais ce jour de mai 93. C'est passionnant. Il est en replay, disponible sur MyCanal.
Parfait, vous m'avez donné envie. Hein, voilà.
À voir, absolument.
C'est genre du matin au soir.
Du matin au soir. Voilà. De 6h le matin, du réveil du Vieux-Port.
Avec toutes des images d'archives et des documents exceptionnels. Voilà. Ça donne envie. Du Miel Gerino. Je disais, c'est finalement ce que dit Théo est très vrai. C'est-à-dire que c'est vraiment une... Quand tu gagnes la Ligue des Champions, c'est indélébile. C'est-à-dire que t'as un tampon sur ton passeport et ça reste tout le temps. Et
mais c'est vrai que sur le plan sportif, et que ce soit les dirigeants, les coachs et entraîneurs, je trouve qu'ils le respectent peut-être pas assez. Les supporters, les Marseillais, les gens qui ont aimé, qui aiment Marseille.
Vous trouvez ?
Ouais, parce que... Enfin, avec ce lien, ça devrait décupler l'envie, les capacités, en plus jouer face à un public quand même qui est assez incroyable et un stade qui résonne d'une façon telle. Et je trouve qu'en tout cas sur le plan européen, pour le moment en tout cas, depuis pas mal d'années, je trouve qu'ils sont pas à la hauteur de ce titre. Et de ce que ces anciens ont réalisé d'extraordinaire.
En tout cas, évidemment, demain, soyez là, dès 20h, émission exceptionnelle. Hein. On fera tout simplement un hommage, un anniversaire, une émission spéciale. Alors, de 20h à 21h, on aura Hervé Renard qui sera avec nous en direct dans le studio. Enfin, il sera là à Cannes, en direct avec nous pour une interview effectivement exclusive. Et on aura des surprises dans cette interview avec Hervé Renard. Et dès 21h, eh bien, on sera avec Jean-François Pérez et toute l'équipe des sports du côté de Marseille avec Basile Boli, Fabien Barthez, Dominique Tapie, Fabio Capello, Jonathan Clauss, qu'on a entendu, Jocelyn Ogloma, Éric Dimeco, Carlos Moser, tiens, vous en parliez, voilà, il sera demain sur Europe 1 et plein d'autres que je ne vais pas citer ce soir. En tout cas, soyez là dès 20h demain pour cette émission exceptionnelle. Allez, on change complètement de registre, on a fait Marseille, et bien on va faire le PSG.